Au cœur des relations polies, il n'y a ni l'impératif de ne pas éprouver de la jalousie, ni celui d'arriver à éprouver de la compassion. Mais il y a, en revanche, l'idée qu'il faut la déconstruire pour laisser l'autre libre d'aimer qui il veut sans souffrir soi-même. C'est ce que m'explique Françoise Saint-Père, l'autrice du Guide des amours pluriels.
Je suis connue pour être ce qu'on appelle entre guillemets la papesse des amours pluriels, c'est-à-dire que j'ai publié « Aimer plusieurs hommes » en 2002, et qu'elle a été rééditée 5 fois et qui continue à être très lue. Le fondement, c'est vraiment de se dire on n'appartient à personne, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il vous appartient ou que parce qu'il m'aime que je lui appartiens.
Concrètement, ça implique d'accepter de faire un travail sur sa jalousie, cette émotion désagréable qui jaillit en nous, comme le précise Isabelle Brouet.
La jalousie, c'est plutôt une émotion, c'est pas un sentiment. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent sur le moment, parce qu'une situation, quelque chose que quelqu'un a dit, ou quelque chose que quelqu'un a fait, ou une pensée qui nous traverse l'esprit, tout d'un coup, nous fait ressentir une émotion et on bascule dans un état émotionnel désagréable. Selon les personnes, ça va être justement peut-être de la colère, parce qu'on ne se sent pas respecté, parce que quelque chose est venu sur notre territoire, et c'est là où ça va rejoindre tous ces sentiments de possession, de possessivité, de propriété, versus la liberté de l'autre, ou un sentiment de tristesse. Ben, en fait, l'autre, il est ou elle est plus heureuse avec quelqu'un d'autre et qui je suis pour l'en empêcher. Donc voilà, mais fondamentalement, en fait, moi, je me sens super triste. Et il y a des gens pour qui la jalousie se manifeste comme ça par une forme de tristesse. Ou, et c'est souvent aussi le cas, une peur. J'ai peur. En fait, si il ou elle se sent mieux avec quelqu'un d'autre, ben, peut-être qu'elle va me quitter, peut-être qu'il va moins venir me voir, peut-être que notre relation va évoluer. Et voilà, et c'est ça. Mais en fait, c'est une émotion. C'est sur le moment quelque chose d'hyper désagréable à ressentir. Quand on déconstruit ça, quand on se dit que ça vient d'une situation, mais qu'en fait, comme toute émotion, elle nous appartient, elle est en nous, cette émotion. Elle est peut-être déclenchée par quelque chose extérieur, mais en fait, elle est en nous. Alors, on peut travailler dessus.
Moi, je voudrais parler de la compersion. Ouais. Que souvent, quand on parle de relations plurielles, on entend beaucoup parler de compersion, de plus en plus ces dernières années. Il y a quelques mythes aussi que je voudrais débunker au sujet de la compersion. Donc déjà, la compersion, qu'est-ce que c'est ? La compersion, c'est une émotion de joie, de bonheur, au fait de savoir qu'une autre personne ressent de la joie et du bonheur et est épanouie. Et quand on parle de relations plurielles, ça va être notamment le fait de savoir qu'un ou une de nos partenaires est heureux, heureuse, quand elle fait telle activité avec une autre personne. Et la compersion, c'est pas le contraire de la jalousie. C'est pas non plus le Saint Graal à atteindre. On peut ressentir de la compersion par moment et de la jalousie par d'autres envers la même personne. C'est pas des opposés. Et ne pas ressentir de compersion ne fait pas de nous une mauvaise personne polyamoureuse ou non exclusive. C'est pas un Saint Graal à atteindre. Il y a des personnes qui vivront des relations non exclusives, polyamoureuses, pendant des décennies sans jamais ressentir de compersion, parce que bah, c'est une émotion que cette personne ne va pas ressentir juste. Elle ne va pas être jalouse de ce que vit ça ou ses partenaires avec d'autres personnes, mais elle ne va pas forcément en ressentir une félicité et une joie particulière du fait que l'autre aura vécu des choses agréables de son côté.
Parce qu'il y a un peu une injonction dans la communauté polyamoureuse, il y a un peu une injonction à la compersion qui est fatigante. En fait, il faut plutôt le voir comme une émotion qui est agréable sur le chemin. Et la compersion, elle arrive quand la sécurité est là, la confiance est là. Exactement. Parfois. Et parfois non. Et c'est OK, en fait.
C'est ça. L'injonction à la compersion ne doit pas être vue, doit pas devenir une silenciation de nos propres émotions et des moments où on ressent de la peur, de la jalousie ou de l'insécurité. On ne doit pas dire « Ah non, moi je ressens de la compersion, je suis une parfaite personne polyamoureuse et déconstruite, je ne ressens jamais de jalousie parce que je suis au-dessus de ça. » Non, ça, là c'est quelque chose qui est important à déconstruire. C'est une émotion comme une autre. Potentiellement, je peux la ressentir, potentiellement, je peux ne pas la ressentir.
C'est vrai que la compersion peut être un facilitateur aussi dans les relations plurielles.
My heart was beating fast. began to lose control.
Un thème qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait écrire beaucoup de chansons. C'est le thème de prédilection de beaucoup de drames depuis l'Antiquité, en fait. C'est une représentation de l'amour. Mais c'est quelque chose, du coup, avec lequel on grandit et on nous apprend que c'est une façon de montrer notre amour. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu un peu de problème à comprendre. Parce que, comme on disait, la jalousie, c'est composé de plusieurs autres émotions. Là où moi j'arrive, enfin j'ai assez tôt identifié que c'était de la peur ou à de l'inconfort. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à comprendre ce que les gens disaient quand je suis jaloux et j'ai besoin de contrôle. Là où moi j'avais toujours l'impression d'être blessée et besoin de réparer cette blessure. Et c'est quelque chose qui a été toujours un peu difficile, notamment quand j'ai eu des partenaires qui étaient jaloux, de comprendre leurs accès de colère et ce besoin de contrôle en fait sur moi, parce que ça faisait une dissonance. Mais parce qu'on a... Et eux, ils ont beaucoup plus absorbé que moi ces modèles de « je t'aime, je suis jaloux, jalouse, je te contrôle » sans aller forcément déconstruire et gratouiller ce qu'il y avait derrière comme déclencheur.
Ouais. Moi, je pense que j'étais assez jaloux quand j'étais jeune. Enfin, en tout cas, ça m'est arrivé de ressentir de la jalousie quand j'étais jeune. C'est passé très rapidement. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance où, dans les moments où j'étais peut-être le plus vulnérable, d'avoir été avec des partenaires qui ont très bien géré la situation. Donc toujours, si on revient sur cet angle trauma informé, je pense que j'ai eu la chance de trouver des partenaires qui ont réparé, pris en compte ma jalousie, et donc c'est passé, c'est guéri. Aujourd'hui, ça m'arrive encore, et c'est quelque chose qui, je crois, ça dure 2 jours, et puis c'est, ça part. Mais encore une fois, parce que je suis dans un contexte où, dans mes relations, ça peut être abordé, on en parle, c'est vu, reconnu, on met en place quelque chose, et basta.
On a dit bien accueillir à quoi ça ressemble, mais mal accueillir, à quoi ça peut ressembler aussi. Mal accueillir, ça peut dire... Non mais tu te fais des films. Non mais c'est toi qui a pas, c'est toi qui est insécure, c'est toi qui n'a pas assez déconstruit. Tu n'es pas une bonne personne. C'est des choses qu'on peut entendre et ça nous aide pas en fait à pouvoir continuer à discuter de ce qu'on ressent et à apporter de la sécurisation dans nos relations.
Bah globalement chaque fois que si on t'annonce quelque chose, tu nies ce que l'autre personne te dit. Globalement ça marche jamais très bien quoi. C'est pas rassurant de nier
ou de rejeter à l'autre sur le fait que tu ressens quelque chose parce que tu n'es pas assez quelque chose ou que tu es trop insécure, trop fragile, pas assez déconstruit. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver en fait.
Ouais, moi je pense que je me retrouve face à quelqu'un comme ça, je pense que je fuis en fait maintenant.
Mais je pense que moi il y a 20 ans j'aurais pas fui de la même manière.
Ouais.
Aujourd'hui, on arrive à un âge où ce sont des thématiques qu'on a pu comprendre, apprendre, sur lesquelles on a des ressources qu'on n'avait pas il y a 20 ans.
Clairement.
Ces ressources-là, ne serait-ce que sur Instagram, elles existent, on y a accès, même si elles ne sont pas aussi fouillées que là, une discussion de 2 heures. On a des outils qu'on n'avait pas quand on avait 18 ans.
Karine, comme moi, on est dans des relations plurielles depuis longtemps, à l'époque où il n'y avait pas de réseau, pas de lecture.
Ouais, c'est ça. Enfin, il y avait quelques blogs, il fallait les trouver.
Par nous-mêmes. Et ça a fonctionné.
Ouais.
Donc,
les ressources sont accessibles depuis peu. C'est vrai que Instagram, pour la vulgarisation de l'accès aux ressources, c'est quand même assez fou. Et c'est vrai qu'avec les traumas que j'avais à 18 ans, comme je disais, moi, les émotions composées, c'est pas quelque chose que j'arrive bien à comprendre, mais j'arrive mieux à voir les petites émotions qui les composent, plus que, par exemple, la colère un peu, qui est un mélange d'indignation, de peur, tout comme ça, qui va nous mettre sur un moteur plutôt de colère, c'est quelque chose que je comprends pas. Par contre, je vais comprendre de m'indigner, je vais comprendre d'avoir peur, je vais comprendre de le rejet. Et ça, c'est des choses que j'identifie fort, Mais clairement, à 18 ans, j'avais pas les armes. J'avais tellement de choses à déconstruire, je savais pas encore qui j'étais vraiment. J'étais encore dans ces carcans de l'hétéronormativité avec où on m'a dit tu fais tes études, tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureuse, tu te fiances, tu te maries, t'achètes une maison, t'as un chien, tu fais des enfants, et roule en fait. Et forcément, ça peut insécuriser quand on n'a pas les armes.
On est beaucoup à avoir navigué sans modèle, mais moi, j'ai pas été totalement sans modèle, parce que du coup, j'ai rencontré la non-exclusivité avec le milieu militant anarchiste, et donc il y avait déjà des brochures.
C'est une différence où là, moi, je me suis entêtée plus longtemps dans un modèle, ce modèle d'escalator très normé, très hétéro, dans lequel je me retrouvais pas, mais dans lequel j'essayais de me contorsionner, de me restreindre et de m'oublier un petit peu pour coller, et où j'ai fait, moi, cette démarche, enfin, à un moment, me dire, mais c'est pas possible, je peux pas être la seule à ressentir ça. Et c'est là où Internet, malgré tout, a joué un rôle énorme, parce que les forums, parce que ensuite les comptes Instagram, tout ça, on dit, on n'est pas seul avec se dire, mais ce modèle ne nous correspond pas. Il existe d'autres modèles de faire, d'agir, de relationner, et qui sont pas forcément honteux, même s'ils sont à la marge. Et ça change énormément la donne. Et comprendre que le modèle dans lequel on me forçait à entrer, on fait difficilement rentrer un carré dans un rond, et que j'étais un carré qui rentrait pas dans un rond, et qu'il fallait que je trouve... Exactement, il fallait que je trouve mon carré, et à quoi il ressemblait, est-ce que j'étais vraiment un carré ou pas. Et ça, en fait, il a fallu du temps de digestion, de compréhension. Là où toi, tu as eu des outils un peu jeunes dans les milieux anarchistes, moi, ces infos-là, je les ai trouvées plus tardivement. Et donc, le travail de sortir de la norme de cet escalator relationnel, notamment, il m'a pris du temps. Et une fois que j'ai trouvé qu'il existait une autre voie que l'escalator, ça a été une révélation sur toutes mes relations.
Ouais, dans le processus d'individuation, c'est souvent ça, c'est on ressent quelque chose d'inadéquat quelque part, puis on vit un peu de manière solo, puis on rencontre des étiquettes, des communautés, des pensées, etc.
Des représentations.
Des représentations, et donc on vient coller à ces représentations, et l'étape d'après, c'est s'en détacher. Pour dire, finalement, je fais ma propre voix et je suis fluide. Fluide là-dedans. Et c'est pour ça que la communauté, les étiquettes, etc., c'est important dans le processus, mais en fait, au bout d'un moment, c'est plus nécessaire. Mais c'est une étape qui facilite.
C'est une étape qui facilite, c'est une étape aussi qui nous permet de nous rencontrer sur des vécus communs. Et après, ça nous permet de manipuler des concepts et pour pouvoir faire nos propres petites tambouilles avec soi-même et puis nos partenaires.
Mais c'est là où, finalement, des fois, la communauté peut être coercitive.
Oui, parce que le jour où on se retrouve à être
plus tout à fait dedans,
un peu contraint par les codes de cette nouvelle communauté, il va y avoir la question de est-ce que je reste dedans en étant un petit peu contraint, en étant plus vraiment un carré, et peut-être plus un hexagone, mais je suis dans une forme de carré, c'est un peu moins confortable. Et est-ce que je sors? Est-ce que je crée autre chose? Et comment je deviens pleinement un hexagone? Par exemple.
Tant que le polyamour, on dit pas, c'était mieux avant.
C'est pas pour dire, mais c'est rien qui a été inventé, hein. C'est pas révolutionnaire,
non,
le polyamour.
Pas du
les
tout.
Non-exclusivités, ça a toujours existé de tout temps. Oui, là on en parle beaucoup, parce que contexte.
Mais on réinvente
temps,
pas la
mais
poudre.
On réinvente rien, hein. Enfin, franchement, les gens, ils faisaient ça avant.
C'est ça, c'est juste que là on a les moyens d'en parler, de créer des communautés, de théoriser dessus, de plus être caché, que ce soit pas restreint à des tout petits milieux un peu. Soit honteux, soit très privilégié.
On a parlé dans cette émission de la jalousie, ça revient souvent au Café Poli et pas que, mais ça nous invite, je pense, à sortir d'un idéal d'être ou d'avoir le partenaire polia parfait.
Oui, et de devenir le partenaire parfait aussi.
L'idée, c'est de pouvoir sortir des standards exigeants, de la peur de déranger, d'être de trop, d'effacer ses limites pour être aimé, de croire que l'autre va combler tous nos besoins et vice-versa.
L'idée, c'est d'arriver progressivement vers de l'authenticité. Et progressivement est important, ce qu'on disait tout à l'heure.
Ouais.
Et que l'exposition positive est progressive. Donc, y aller baby step par baby step, petite étape par petite étape, sans griller les étapes. Ça va nous permettre aussi de nous adapter, apprendre à notre cerveau et notre système nerveux à s'adapter, à s'exposer à des petites étapes. Et qui vont nous dire, ok, en fait, ça, je peux le faire. Et je peux envisager une étape de plus. Et progressivement aller dans un système qui est vraiment positif de renforcement agréable et positif. Et c'est comme ça que nos signaux, la jalousie, qui est un signal d'alerte, va s'apaiser progressivement et arrêter de s'activer sur des petites choses et en fait nous permettre d'explorer de plus en plus sereinement.
On reviendra, Karine ? Est-ce qu'on reviendra ?
On revient bientôt, on va revenir sur comment se rencontrer et aussi comment se séparer, parce que ce sont des choses qui arrivent. Et comment on gère ça dans les relations plurielles.
Merci, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Alors.
À bientôt.
Salut, ciao, bye bye.
C'était rapide, hein?
Ouais, conclusion 3 minutes. Ouais, même 2, je crois, t'as vu.
Parfait.
Ça, c'est l'habitude des mecs hétéros. 3 minutes et c'est fini.
Elle est facile, mais...